Matière à penser, Antoine Garapon.
Bonsoir. Cinquième et dernier volet de cette série consacrée aux victimes, une nouvelle figure politique avec Richard Rechtmann. Nous terminons cette semaine sur les victimes en examinant la manière dont la victime de traumatisme est devenue le signe d'une transformation morale de nos sociétés, une nouvelle figure politique. Et cette réflexion sera conduite en compagnie de Richard Rechtmann, qui est psychiatre et anthropologue, directeur d'études à l'EHESS et qui est l'auteur avec Didier Fassin d'un ouvrage intitulé « L'Empire du traumatisme ». Bonsoir Richard Rechtmann.
Antoine Garapon, bonsoir.
Alors, l'empire du traumatisme, vous avez commencé votre travail avec Didier Fassin sur une analyse de l'évolution de notre perception du traumatisme.
Oui, tout à fait. Nos perceptions ont changé considérablement. Considérablement. D'une manière qui était totalement imprévisible, puisque, au fond, quand on regarde l'histoire de cette notion psychiatrique qui a été inventée à la fin du 19e siècle pour
par
décrire
la chirurgie de guerre ou
pour... même pas pour les accidents de chemin de fer en fait. Ouais. Et c'est les premières victimes d'accidents de chemin de fer qui présentaient pas forcément de troubles neurologiques ou de troubles physiques après un accident parce que les trains n'allaient pas très très vite à cette époque-là, pouvaient présenter des séquelles psychologiques. On s'est posé la question de savoir mais quelles étaient ces séquelles psychologiques, comment se fait-il que les gens pouvaient rêver comme ça un nombre de fois incalculable de ce qui leur était arrivé et revivre l'événement par exemple. Et on s'est posé la question de savoir s'il n'y avait pas des lésions neurologiques sous-jacentes. Mais derrière l'inquisition médicale, si vous voulez, une autre inquisition a tout de suite apparu.
Ça parle d'un juge, l'inquisition.
Oui, je fais exprès. Puisqu'on se demandait pourquoi ces gens se plaignaient-ils. Au fond, ils se plaignaient pour essayer d'obtenir des subsides, pour obtenir une réparation. Ils avaient été victimes d'un accident, ils avaient pris le train de façon tout à fait ordinaire, et puis ils se retrouvaient handicapés à la suite de ce voyage.
Ce qui rendait suspect leur témoignage, leur réaction.
Alors, au début, pas trop, parce que les avocats qui les défendaient, et on peut le comprendre, les premiers usagers des chemins de fer n'étaient pas les populations les plus pauvres. Donc c'était des gens de bien, des gens de la bourgeoisie, qui pouvaient se retrouver finalement handicapés à la suite de cet accident, et donc demander une réparation. Donc ils n'étaient pas complètement suspects, au contraire, on pourrait dire qu'on avait envie de les aider. Le soupçon va venir beaucoup plus tard, lorsque finalement ce sont des catégories plus populaires qui vont être victimes de ces lésions consécutives à un accident, notamment les accidents du travail. Et le grand...
C'est pas
du tout le même public. Ce sont des ouvriers, ce sont des gens qui travaillent dans des conditions extrêmement difficiles, qui ont la valeur du travail en eux, la valeur du travail qui est posée dans l'ensemble de la société. Et puis certains vont, à la suite d'un accident du travail, développer des troubles post-traumatiques, c'est-à-dire se souvenir de façon assez envahissante de l'événement traumatique sans forcément avoir de blessures physiques, sans forcément avoir une lésion physique qui pourrait expliquer cela. Non, on ne sait pas trop de quoi ils se plaignent, mais ils continuent à se plaindre. Et là, effectivement, le soupçon va être d'emblée majeur. Est-ce qu'ils ont vraiment un trouble ou est-ce qu'ils veulent obtenir une compensation?
C'est ça. Et la guerre 14? Parce que là, c'est quand même une source de traumatisme infini et la société française va le voir partout dans le moindre de ces villages, non seulement des gueules cassées, mais des gens qui reviennent traumatisés, assommés par ce qu'ils ont vu ou par ce qu'ils ont fait.
Alors, pas complètement pour la guerre de 14, justement, et c'est là la grande surprise. Les accidents du travail, c'est 1905, ça. Mmh. C'est commence avec les grandes lois sur la réparation des accidents du travail. La guerre de 14, ça arrive un petit peu plus tard, et à un moment où on ne s'attend pas à avoir des victimes de traumatisme psychique. Pour une raison toute simple, c'est qu'il y a eu la révolution de 1905, en Russie, qu'il y a eu un certain nombre de publications qui ont été faites, et qui laissent entendre que souffrir de troubles post-traumatiques n'est pas une chose normale. Au fond, on pourrait se dire...
Exactement à l'inverse d'aujourd'hui.
L'inverse, on se disait, un soldat, un homme de troupe...
C'est un homme fort.
Ah, c'est pas seulement un homme fort, c'est un homme qui réfléchit pas beaucoup. C'est surtout un pauvrette, quoi, de la chair à canon. Et qui, dès lors qu'il est indemne, il est pas mort, il est pas blessé, il doit être très content. seul un officier pouvait développer un trouble post-traumatique.
Il y a une différence d'appréciation selon les classes sociales, d'après ce que vous nous dites, Richard Reichmann. C'est-à-dire que quand ça soit victime d'accident de chemin de fer ou de travail, qu'on soit officier ou soldat, on n'a pas le même traumatisme.
Exactement. C'est pas qu'on n'a pas le même traumatisme, c'est que dans un cas, il est compréhensible et acceptable, les classes aisées. Dans un autre cas, il est immédiatement suspect. Parce que le combattant qui développe un trouble post-traumatique, lui, il a peut-être envie de pas aller au combat. Il a peut-être envie d'obtenir une pension et surtout d'arrêter les combats. Donc il est suspect d'emblée.
Et la névrose, un
tir au flanc, exactement. Un déserteur psychique. En Angleterre, un certain nombre de traumatisés pendant la guerre de 14 ont été fusillés comme des déserteurs. C'était des déversions psychiques.
Et après, ça continue. Après, dans la guerre 40, il y a dans un livre dont on a beaucoup parlé dans la semaine précédente d'Eisenberger, il y a tout un chapitre justement sur le déserteur. Mais alors, c'est très important parce que dans l'histoire des droits de l'homme et avec ce personnage central qui est Cassin, René Cassin, qui est un blessé de guerre et qui va faire de ce traumatisme et de ce physique, hein, de ce handicap physique quasiment qu'il éprouve, il va dire nous ne sommes pas uniquement des combattants qui nous sommes battus pour la souveraineté, pour la liberté, pour la France. Nous sommes aussi des victimes. Il y a deux qualités qui se cumulent et qui ne s'excluent pas l'une l'autre. Mais la grande nouveauté, c'est que la blessure de guerre peut devenir source d'une victimité et de réparation et de respect.
À condition qu'elle soit physique. C'est-à-dire que dans un premier temps, le traumatisme psychique n'est pas du tout assimilé à une blessure de guerre. Ce qu'on se demande, c'est pas pourquoi ces hommes sont traumatisés, mais qui sont ces hommes qui sont traumatisés? Parce qu'ils sont pas si nombreux que ça par rapport au nombre de combattants engagés. Comment se fait-il que certains, alors que d'autres non, vont développer un trouble post-traumatique? Le soupçon n'est pas sur la maladie, il est sur l'homme. Qui sont ces hommes qui développent quelque chose que les autres ne développeraient pas? Vous perdez un bras, vous recevez une balle dans le corps, tout le monde comprend. Le psychisme, c'est une fragilité.
Est-ce qu'il y a quelque chose d'incommunicable dans le psychisme?
Non, c'est juste une fragilité à cette époque.
Ah oui, c'est ça, oui, bien
c'est
sûr.
C'est juste une fragilité.
Quand est-ce que
c'est
ça vire?
Un taré, si vous
oui,
voulez.
C'est ça, oui. Ou un tir au flanc, ou un taré. Mais quand est-ce que ça change, alors, Richard?
Ça change beaucoup plus tard. Ça change en 1968. Entre 68 et 70 aux États-Unis, lorsqu'il va y avoir une reconfiguration de l'ancienne névrose de guerre, qui va s'appeler le Post-Traumatic Stress Disorder dans la Bible de la psychiatrie américaine, le DSM-3 de l'époque, où tout à coup on va changer la définition. C'est juste un changement de définition qui intervient à ce moment-là. On va dire le traumatisme psychique est la réponse normale à une situation anormale. Jusque-lors, ce que l'on disait, c'est que le traumatisme psychique était une réponse anormale à une situation normale. C'était normal que pendant la guerre, vous perdiez des gens. C'était normal d'avoir peur. C'était normal d'éviter de recevoir une bombe sur la tête. Tout était normal. Ce qui n'était pas normal, c'est d'en être malade. À partir des années 70, on inverse cette formule, mais pour des raisons qui ne sont pas médicales, et j'y reviendrai si ça vous intéresse.
Oui, ça nous intéresse beaucoup, parce que faut expliquer ce tournant d'autant plus important que le fameux PTSD, le Post-Traumatic Stress Disorder, va être étendu ensuite à toutes les victimes d'infractions.
Exactement.
Et alors ça, c'est quand même une révolution juridique, une révolution de la nosographie psychiatrique, et c'est très important pour comprendre la condition de victime aujourd'hui.
Exactement, parce que c'est une modification qui touche exclusivement la définition. Mais en changeant cette définition, en faisant du traumatisme la réaction normale, tout ce qui va pouvoir s'exprimer à travers le traumatisme donnera un accent de vérité à l'événement qui est survenu auparavant. Et c'est ça qu'il faut comprendre, qui change considérablement. Dès lors que vous présentez un trouble post-traumatique, cela prouve cliniquement que ce que vous avez vécu était un événement insupportable. Donc il y a un lien qui ne pouvait pas se faire auparavant.
Et qui va changer, Richard Reichmann, par rapport à la définition de la victime, de l'offensé. On disait autrefois, d'ailleurs dans le droit aussi, de l'offensé. L'offensé, c'est celui qui a subi une emprise illégitime, amorale d'autrui sur lui. Donc c'est la moralité de l'acte qui crée l'offensé. Alors que là, c'est le vécu psychique de l'individu qui crée la victime. Et donc l'événement traumatisant.
Exactement. Avec un changement majeur qui intervient à ce moment-là, c'est, comme vous le dites très justement, c'est l'événement qui devient premier sans que l'on qualifie l'événement. Parce qu'auparavant, on le qualifiait, l'événement. C'était avoir échappé à la mort, avoir échappé à une bombe, avoir été blessé. C'est tout ce qui vous avait touché. Là, l'événement, on ne le définit pas.
Richard Eichmann, on pourrait continuer ce jeu d'inversion. Parce que ça arrive à un moment où naît en même temps des sociétés connaissent un individualisme de plus en plus accentué, la fin des grands récits, comme on dit, c'est les prolégomènes de la fin des grands récits explicatifs. Et donc on peut se demander dans quelle mesure, question que je vous pose en tout cas, dans quelle mesure le sens de l'événement ne se lit pas sur les marques qu'il laisse sur le corps et dans les esprits de ses victimes.
Bien sûr. Enfin, le sens que l'on veut accorder à l'événement, c'est exactement ce qui va se jouer. Et par rapport à la guerre du Vietnam, au moment où le traumatisme devient la marque de l'héroïsme des combattants, c'est la première fois qu'on voit une chose pareille, c'est-à-dire que les gens traumatisés psychiquement deviennent des figures héroïques.
Parce qu'ils ont perdu la guerre.
Non seulement parce qu'ils ont...
L'Amérique a perdu la guerre.
En plus, parce que ceux qui sont ces victimes sont pour la plupart des auteurs d'atrocités. C'est ce renversement majeur qui se passe à ce moment-là. C'est que vous avez un certain nombre de vétérans de la guerre du Vietnam qui reviennent, qui ne sont pas des victimes de guerre au sens où nous entendait auparavant, qui sont des auteurs d'atrocités. Et dont on va considérer qu'ils sont traumatisés par le fait d'avoir été des auteurs d'atrocités. Et à ce moment-là, l'événement change complètement de nature. Peu importe que vous donniez un coup ou que vous le receviez, comme en chirurgie, pourrait-on dire, oui. Si la jambe est cassée, la jambe est cassée.
Oui, c'est ça. Oui.
Et ben, c'est le même argumentaire qui va se mettre en place. Ouvre la voie
à beaucoup de choses, Richard Eichmann. Je rappelle pour nos auditeurs que vous êtes à la fois psychiatre et anthropologue. Vous avez une pratique médicale et en même temps, vous êtes chercheur à l'EHESS. Et alors, ce qui est troublant dans cette nouvelle définition du traumatisme, c'est qu'elle englobe aussi bien la victime que l'auteur. Aussi bien le persécuté que le bourreau. Parce qu'il y a un traumatisme aussi à être bourreau.
En tous les cas, c'est comme ça que ça va se mettre en place. Oui, il y a, pour un certain nombre d'auteurs, un traumatisme à être bourreau. À condition, pardonnez-moi, que le bourreau fasse partie du bon groupe. C'est-à-dire qu'on ne se pose pas la question, par exemple, si c'est des auteurs d'attentats d'Al-Qaïda, de savoir. Il y a encore des distinctions qui se font.
Oui, mais Richard Eichmann, je pensais à l'étude de Stéphane Audouard Rousseau sur la guerre 14, quand il dit « c'est une histoire qui se fait sous contrôle des anciens combattants ». Et les anciens combattants, au fil des décennies, du temps, se présentent comme des victimes d'une grande guerre qui les a tous dévorés, au risque de faire disparaître leur propre responsabilité dans les atrocités qu'ils avaient commises. Commettre une atrocité pour un poilu devenait une sorte de nécessité de traumatisme supplémentaire, en quelque sorte.
Exactement. Alors, après, il faut comprendre pourquoi. Ça a une fonction économique majeure, c'est-à-dire que ça permet aussi de faire entendre des causes qui n'étaient pas entendues auparavant, notamment ceux des perdants, vous l'avez dit très justement. La guerre du Vietnam, c'est une défaite. Comment on parle aux États-Unis d'une défaite? Comment on donne un certain héroïsme aux combattants qui ont perdu la guerre?
Est-ce que ça ajoute pas au traumatisme, Richard Eichmann, le fait de s'être battu pour une guerre qu'on a perdue, surtout pour les États-Unis, qui était quand même, ça a été une des, leur première grande défaite, c'est-à-dire non seulement vous avez été traumatisé, peut-être par des atrocités que vous avez faites, mais pour une guerre qui était inutile et qu'on a perdue.
Alors là, vous m'inviteriez à changer de casquette, ce qui est assez difficile à ce moment-là.
Je rappelle que vous avez deux casquettes, vous êtes à la fois anthropologue et
psychiatre. Oui, j'en ai deux, mais pas simultanément. Bon, voyez-vous, quand on étudie
pas guetté par le climat.
Quand on étudie le fonctionnement d'une représentation dans une économie morale, on peut pas savoir si finalement les gens sont vraiment traumatisés ou pas. Et c'est en ça que ça devient un langage politique. Parce qu'il n'y a pas besoin de savoir si les gens sont authentiquement traumatisés pour être capable de se saisir de cette ressource pour la faire jouer dans l'espace public le rôle qu'elle peut jouer à un moment. Est-ce que la guerre de Vietnam a traumatisé plus les gens que la guerre de 40, je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est que pendant la guerre du 40, on ne pouvait pas évoquer le traumatisme des combattants parce qu'à ce moment-là, vous présentiez des hommes qui avaient été détruits par la guerre et qui étaient des lâches.
Est-ce que la victoire soigne du traumatisme, Richard Eichmann?
Bien sûr que non. Comme la défaite ne rend pas traumatisé.
Parce que moi, ce qui me choque...
Mais du traumatisme social, oui, du traumatisme individuel, non.
Oui. Mais comment on va vivre dans cette nouvelle économie morale du traumatisme qui a mis de côté le critère juridique j'allais dire, du bien et du mal, du bourreau et de la victime, de l'atrocité et du victime d'une violence qui lui est tombée dessus, en quelque sorte. Là, on est sur un terrain, je dis pas un terrain glissant, mais on a ouvert la porte à quelque chose qui... On abandonne le jugement de droit au bénéfice d'un jugement de réalité, ne compte plus que le traumatisme.
Alors, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça, parce que, par exemple, si on revient encore une fois sur la guerre du Vietnam, parce que c'est vraiment le moment fondateur, hein, de son, le massacre de My Lai, où justement une petite brigade va massacrer en l'espace d'une journée plus de 400 personnes. Le procès de Collet est un procès extrêmement intéressant parce qu'il va être condamné. Il va être gracié par la suite, mais il va quand même être condamné. Mais tout le travail des experts psychiatres, et notamment de Robert Lifton, ça va être de dire cet homme n'est pas complètement responsable de ce qu'il a fait, même si il l'a fait et qu'il mérite d'être condamné. C'est-à-dire que le traumatisme qu'il va présenter après, Lifton va dire cet homme est traumatisé par la guerre, il faut bien comprendre que ce n'est pas simplement au niveau juridique que ça joue, c'est au niveau de la question de l'humain. Au fond, ces hommes n'ont pas été transformés en des monstres, la preuve, ils sont traumatisés. On peut les condamner, on peut les poursuivre. Ça n'évacue pas complètement la question du bien et du mal, ça aurait été très bien si ça le faisait, ou très mal, peu importe. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que ça va être une nouvelle définition de l'humain qui se met en place, et qui là, à mon sens, est encore plus problématique, parce qu'elle va dire... Un homme normal, c'est celui qui est traumatisé. Ben, quid de celui qui n'est pas traumatisé?
Et on va avoir une inversion du soupçon, alors,
exactement.
Richard Eichmann. Et on va soupçonner les personnes qui ne sont pas traumatisées, eh bien, d'abord de mensonges sur les événements qu'elles rapportent, et d'être un peu moins humaines que les autres.
Ben, c'est ce qui se passe avec nos demandeurs d'asile aujourd'hui. C'est-à-dire que si on ne peut pas prouver qu'ils ont été traumatisés, on considère qu'ils n'ont pas été victimes de persécution. Ce qui est quand même une chose aberrante.
C'est-à-dire qu'on
a complètement inversé le processus. Aujourd'hui, si vous voulez obtenir des papiers, il ne suffit pas de montrer que vous avez été traumatisé. Mais si vous ne pouvez pas démontrer que vous l'avez été, vous êtes sûr de ne pas les obtenir. Et ce critère, qui normalement devait être un critère qui permette de servir à tout le monde, dans le cas des demandeurs d'asile, il s'inverse complètement et on peut réduire mais drastiquement le quota des gens parce que finalement, on n'est pas si sûr que ça, que les événements les ont traumatisés. Le clinicien que je suis, puisque vous m'avez invité à changer de casquette de temps en temps, je le fais, vous dira, mais on n'en sait rien. Il y a des événements épouvantables qui traumatisent des gens, qui ne traumatisent pas d'autres. Et puis, il y a des événements anodins. Il n'y a pas de lien entre l'événement en tant que tel et le traumatisme psychique. C'est bien un discours social, une ressource politique qui émerge à ce moment-là.
Alors, on va reparler de la ressource politique, mais avant d'aborder ce chapitre très important dans votre analyse, Richard Eichmann, un mot sur la résilience, un mot qui reste pour moi un peu énigmatique, la résilience, et qui est extraordinairement porté par notre époque. Qu'est-ce que vous comprenez dans la résilience? Est-ce que la résilience n'est pas précisément la manière de faire de ce non-traumatisme une sorte de vertu morale?
La résilience a une histoire complexe. En fait, la résilience apparaît dans les années 80, au moment où, quelques années après, la décision qui a été prise, que je vous disais, de les psychiatres américains, de dire que le traumatisme était une réaction normale à une situation anormale, sans aucune donnée épidémiologique, sans rien. C'est une décision politique de gens qui étaient très investis contre la guerre du Vietnam et qui voulaient favoriser
déjà la politique.
Déjà, c'est une décision extraordinairement politique. Et puis les études épidémiologiques vont venir un tout petit peu plus tard, dans les années 90. Et là, qu'est-ce qu'on constate? Que ça marche pas.
Un tiers des personnes
ayant subi un événement hors du commun ont un état de stress post-traumatique. Un tiers, réaction pathologique ordinaire, donc pas spécifique. Et un tiers n'ont rien. N'importe quel statisticien abandonne l'hypothèse de la réaction normale à une situation anormale. Un tiers, c'est pas suffisant pour le dire. Et c'est à ce moment-là qu'on invente la résilience. Les deux tiers qui n'ont pas été traumatisés sont des gens qui auraient dû être traumatisés, mais qui sont résilients.
Qui ne sont pas.
Auparavant, lorsque le traumatisme était soupçon, et qu'on disait celui qui est traumatisé, c'est un lâche, rien d'étonnant que deux tiers ne soient pas traumatisés. C'était justement
le signe
que le tiers était vraiment soupçonnable. Si on ne dit rien à ce moment-là, on retombe dans le soupçon du tiers. Et on invente la résilience et on en fait une valeur morale extraordinairement puissante.
C'est ça, Richard Eichmann. C'est ça qui est très intéressant, c'est comment on passe de ce constat clinique, en quelque sorte, effectivement, nosographique pour les psychiatres, comment est-ce qu'on arrive à transformer ce constat en une valeur morale, en quelque chose de désirable?
Parce que justement, le traumatisme dit quelque chose de la réalité sociale. Il nous dit quelque chose de nous, nos sociétés démocratiques. Il y a des choses que nous ne pouvons pas supporter. Personnellement, et psychologiquement. C'est-à-dire qu'on a changé la norme sociale où la norme se cale sur une norme psychologique. Ce qui n'est pas socialement supportable devrait ne pas être psychologiquement supportable. Et c'est quelque chose qui va se mettre en place à partir des années 90, qui aujourd'hui règne sans partage, puisque si vous dites que quelque chose est insupportable, vous allez dire c'est traumatisant. Cliniquement, non, il y a des choses qui sont insupportables, inacceptables, mais qui ne sont pas nécessairement traumatisantes. Mais aujourd'hui, c'est le discours qui passe. Si c'est pas traumatisant, alors vous pouvez continuer à exploiter les gens. Mais s'ils souffrent, vous n'avez plus le droit de les exploiter.
Et on va voir à quel point ce discours sur le traumatisme et ces observations cliniques, cette formulation clinique du traumatisme va reconfigurer les rapports sociaux.
Culture, matière à penser, Antoine Garapon.
Et toujours avec Richard Rechtmann pour ce cinquième volet de notre semaine consacrée aux victimes, la victime comme figure politique. Richard Rechtmann qui a choisi de nous faire écouter So What de Miles Davis.
Pourquoi ? Parce que j'adore, c'est un morceau qui m'accompagne depuis des années et des années, et que j'écris très souvent en écoutant ce morceau-là, d'autres aussi, mais surtout celui-ci.
Et ça vous inspire pour écrire sur les victimes, comme sur les auteurs, parce que vous avez travaillé sur ces deux sujets, Richard.
Ça donne le rythme. En fait, je me suis rendu compte que pour l'écriture, on avait besoin d'un rythme, et que le rythme me venait de la musique que j'écoutais, alors du blues, du jazz, et très souvent So What.
Alors vous parlez de rythme, est-ce qu'on pourrait dire que les victimes, aujourd'hui, c'est ça la grande nouveauté, c'est ça qui vous a, je crois, passionné avec Didier Fassin, c'est que les victimes, désormais, rythment nos sociétés. C'est-à-dire que les victimes sont devenues une véritable figure qui permet de comprendre, de nous comprendre nous-mêmes, de comprendre les rapports sociaux, Richard Rechtmann.
Ah, vous avez parfaitement raison. C'est une façon aujourd'hui de comprendre non seulement les rapports sociaux, tels qu'on les voit, mais aussi de comprendre les rapports sociaux tels qu'on ne les voit pas. Il faut toujours, à partir du moment où vous avez un angle très puissant, qui éclaire considérablement la société, se poser la question de qu'est-ce qui se passe pour tous ceux qui rentrent pas dans cet angle-là. Comment ça obscurcit les choses?
Bien sûr. Bien sûr, parce que, alors moi, ma première réponse, si je prenais votre question, Richard Reichmann, je dirais, ce que ça obscurcit, c'est la politique. Ce que ça obscurcit, c'est que dans une entreprise, lorsque les cadences sont trop soutenues, lorsque il y a une pression qui devient intolérable, la réponse, elle doit être collective, syndicale, elle doit être politique, elle doit être dans la dénonciation, dans l'espace public, elle doit être engager un rapport de force pour changer les accords d'entreprise, les droits syndicaux, etc. Et la victime, elle dit quoi ? Elle dit, je souffre. Je suis harcelé. Moi, personnellement. Et il y a donc une perte en collectivité et une perte en politique, Richard Reichmann, non ?
Alors, permettez-moi, Antoine Guérapon, d'être en désaccord avec vous sur ce point-là. Non, c'est du politique. Vous avez une conception du politique qui est finalement assez court dans l'histoire contemporaine. C'est-à-dire, c'est le milieu du 19e jusqu'à fin du 20e siècle. Mais ça a changé. Aujourd'hui, la politique ne s'exprime pas exclusivement à travers les partis et pas exclusivement à travers le syndicalisme. La politique s'est toujours exprimée d'une certaine façon à travers ce qui est insupportable à un groupe social. Pendant des années, ce qui a été insupportable à un groupe social, c'est l'exploitation. Aujourd'hui, malheureusement, je dirais, l'exploitation est supportable, ce qui est pas une bonne chose. Mais ce qui devient insupportable, c'est que cette exploitation provoque de la souffrance. Et donc, le traumatisme, la victime, devient une figure contemporaine d'une politique qui permet de changer les choses. Alors, si vous prenez France Télécom, par exemple, au moment où il y a eu tous les suicides, moment où une grosse entreprise passe du public au privé, que les gens ne sont pas contents qu'on soit en train de leur faire sauter ce qu'on appelle leur privilège, inaudibles dans la société, ils sont totalement inaudibles. C'est-à-dire qu'on dit que c'est des favorisés qui se plaignent encore. Donc la lutte syndicale est inopérante vis-à-vis de ces nouvelles techniques de management qui se mettent en place. Et puis surviennent un certain nombre de suicides au travail. Importants, détestables, tragiques. Mais qui, quelques années auparavant, ont été considérés comme des suicides faits par des fous. Jusqu'à présent, on pensait que seuls les
ou malades... Ou des dépressifs, c'est ça,
des
bien sûr.
Des gens
bien
anormaux.
Bien sûr.
Jamais on n'avait pu penser que le suicide soit le révélateur d'une condition sociale et politique. Et là où le langage victimaire a changé et est devenu une ressource politique, c'est que la souffrance individuelle vient dire la souffrance du collectif.
Alors Richard Reichmann, permettez-moi de reformuler mon objection. Est-ce que le risque n'est pas de créer, de faire de la société politique un grand syndicat contre la souffrance ? C'est-à-dire de n'avoir pour perspective que de bloquer, que d'arrêter, que de désigner l'intolérable. Ce qu'il faut faire, bien entendu, je ne conteste pas. Mais est-ce que il n'y a pas dans ce mouvement un passage d'une activité à la passivité, d'une passivité qui résiste, oui, mais qui ne porte plus aucune projection vers un idéal, aucune conflictualisation collective des rapports sociaux. Voilà, c'est ça mon interrogation.
Alors là où je vous donne raison. C'est effectivement un changement qui est important à noter parce qu'il y a une conflictualisation différente des rapports sociaux. Comme si les gens s'étaient accoutumés à l'idée qu'on ne pouvait pas changer complètement tout.
Oui, il y a quelque chose de résigné, absolument.
Et qu'il fallait toucher certains aspects seulement. Alors, moi je suis un optimiste pathologique, donc effectivement j'aurais du mal à voir ça comme un phénomène triste. Je me dis, au fond, c'est un phénomène qui produit de la subversion. C'est-à-dire qu'il vient là, à des endroits où on ne l'attend pas. Comment des managers qui se pensent aujourd'hui tout puissants, qu'ils croient qu'ils sont capables d'éradiquer les syndicalistes, qu'ils sont capables de faire augmenter les cadences, tout pour la production, et tout à coup s'effondrent parce que justement les risques psychosociaux leur font terriblement peur.
Alors, Richard Reichmann, je vais continuer la politique, la polémique, le désaccord. Est-ce que c'est une conflictualité, dans le fond, improductive ? Je m'explique. C'est-à-dire que lorsque le rapport entre la victime et un bourreau, pour le dire très schématiquement, et de se dire il n'y a plus dans les relations sociales que des agresseurs et des victimes, quelque chose qui fait sens pour notre temps, aussi bien dans les rapports entre sexes que pour les rapports avec ceux de nos compatriotes qui viennent d'anciens pays colonisés. Pour c'est un décryptage. La victimité devient un décryptage des rapports sociaux. Mais ce décryptage, qu'est-ce qu'on en fait ? Après avoir désigné son agresseur qui doit se repentir. Après, on est dans, à mon avis, on risque de se trouver dans une, peut-être une conflictualité politique, mais terriblement improductive par rapport à cette perspective. Alors peut-être que j'idéalise les années, le 19e et le 20e siècle, mais dans lequel il y avait une conflictualité, oui, bien sûr, mais qui portait l'idée quand même de l'égalité, d'une égalité construite, d'un partage beaucoup plus grand de commun.
Alors elle portait cet idéal, bien sûr, mais elle ne l'atteignait pas.
Donc, quel problème idéal ?
Quoi ? C'est le problème de l'idéal. Alors, l'idéal a changé de place. Hein. Il se positionne très différemment. Mais dans cette évolution des rapports sociaux, là où je serais d'accord avec vous, même si ce n'est pas ça que vous avez mentionné, mais je vous ferai le crédit d'imaginer que c'était ça que vous vouliez mentionner, c'est qu'en ciblant les individus, on ne cible plus les groupes sociaux. Par exemple,
et là comme où la classe sociale, par exemple.
Ce qui est le plus problématique, c'est dans le patronat, par exemple. Auparavant, les ouvriers ne pouvaient pas attaquer le patronat, ils ne pouvaient pas attaquer le patron, parce que s'ils attaquaient le patron, ils attaquaient tout le patronat. Et donc, il y avait une réponse de corps qui faisait non, c'est pas possible. Et les luttes se faisaient de couche sociale vers couche sociale. Aujourd'hui, avec le traumatisme psychique, avec les risques psychosociaux, ça a changé. C'est-à-dire qu'il devient possible, et c'est une grande victoire, mais une victoire particulière, il devient possible d'attaquer un patron. Mais à ce moment-là, vous ne touchez plus le corps du patronat. Vous touchez juste cet individu, on dit celui-là, c'est un mauvais patron. Et on va le virer, on va le remplacer. C'est-à-dire que même les régimes disciplinaires fonctionnent dans tous les groupes sociaux. Et on peut éliminer tous les individus qui sont récalcitrants. Quelle que soit leur origine, maintenant même, vous voyez, il y a un certain nombre d'hommes politiques qui peuvent se faire mettre en cause. C'est la même logique. On n'est plus en train de dire tous les politiques sont pourris, on est dans le... Alors, on va dénoncer ceux qui le sont pour préserver les autres.
Il y a aussi quand même cette sollicitation de l'émotion, Richard Rechtmann. C'est-à-dire, il y a cette nécessité de mise en scène. C'est-à-dire que comment on extériorise un traumatisme psychique? Vous, en tant que psychiatre, vous pouvez le noter, vous connaissez les paramètres qu'on a vus d'ailleurs cette semaine. Mais il y a aussi une part de mise en scène. Et la vie sociale est mise en scène.
Complètement.
Donc, est-ce qu'il n'y a pas une prime à l'émotionnalisation des rapports sociaux au détriment de la raison ? C'est-à-dire que ma génération, la génération qui vient de 68, on raisonnait beaucoup. La raison par-dessus les impressions passagères, l'infrastructure, etc. Tout cela, est-ce qu'il n'est pas battu en brèche aujourd'hui à cause de cette émotionnalisation de la vie collective ?
Antoine Garapon, vous avez bien sûr raison, mais en regardant que la victime et pas le reste, vous oubliez les autres transformations dans la société. C'est-à-dire qu'au même moment où vous avez cette focalisation sur la victime et un changement du registre politique, de l'action publique, au nom du préjudice que certains ont subi, mais un préjudice que certains ont subi, où vous allez retrouver beaucoup d'individus qui s'y reconnaissent pour la première fois, ils se reconnaissent dans le préjudice d'un seul, c'est vraiment un discours collectif. Vous avez à côté de ça d'autres mouvements de la société qui sont très différents des mouvements victimaires, notamment les mouvements de la place publique. Et les mouvements de la place publique qui traduisent une autre transformation qui n'est pas sans lien avec celle-ci, puisque ce sont des transformations très importantes de la société dans lesquelles les figures charismatiques de leaders sont de plus en plus absentes. Et que ce sont des rencontres, des regroupements spontanés qui, au nom d'une cause, quelle qu'elle soit, alors une cause de souffrance, une cause écologique, une cause d'autre, vont créer une nouvelle dynamique qui interrompt des processus. Alors là où vous avez raison, c'est que l'idéal d'avant du changement politique et révolutionnaire est un peu tombé. Mais il y en a qui ne l'ont pas perdu. Par exemple, je pourrais vous dire qu'on le retrouve assez fortement chez les djihadistes, par exemple.
Oui, alors on va continuer sur cette émotionnalisation, parce que vous en parlez dans vos travaux, Richard Rechtmann. Et ceux qui n'arrivent pas à se mettre en scène ? Et ceux, et je pense par exemple, je pense alors dans votre domaine médical, les maladies orphelines, on l'a bien vu, c'est des maladies qui n'arrivent pas à faire le lobby parce que les gens sont trop peu nombreux. Vous l'avez bien vu à propos de la ZF à Toulouse sur laquelle vous avez travaillé. Bon, il y a ceux qui crient plus fort que les autres, très bien, c'est l'espace public, c'est un espace dans lequel on entre en criant, en revendiquant, c'est pas... Mais et ceux qui n'ont pas ce capital social ni symbolique.
C'est exactement ça le problème. Le problème majeur. Il s'agit pas de savoir si le discours politique contemporain sur la victime est un discours qui efface tout, qui remplace les autres catégories sociales, les autres conflits. C'est pas tant ça le problème.
Moi, je suis pour dire, voilà, c'est un progrès social, puisqu'on entend un certain nombre de plaintes qu'on n'entendait pas auparavant. Mais, et c'est là où il devient problématique, tout ce qu'il ne permet pas d'éclairer, et tous ceux qui ne sont pas capables de s'en saisir. Et c'est là le problème. C'est là, les autres se deviennent totalement absents de la scène sociale.
C'est-à-dire que les pauvres,
pour les appeler ainsi, qui ne savent pas se servir du traumatisme psychique, on n'en parle même pas.
Est-ce que c'est pas le problème, vous travaillez beaucoup sur les réfugiés, oui. Les migrants, est-ce que c'est pas un des problèmes majeurs des migrants, c'est les gens qui ne peuvent pas avoir
accès aux ressources politiques contemporaines. Et c'est ça qui est terrible. Ils sont dans un déficit total d'une parole qui peut les porter. Leur préjudice n'est absolument pas entendu. On a transformé des populations en danger extrême, en danger pour nous. C'est quand même un artifice rhétorique absolument extraordinaire. Ces gens sont menacés. Ces gens meurent dans la mer, ils meurent ailleurs, ils meurent partout et ils deviennent une menace grandissante pour nous.
Est-ce que, dans un autre domaine, Richard Reichmann, mais il y a beaucoup à dire, est-ce que le fait de prendre la parole dans l'espace public, je pense à l'affaire MeToo, au scandale MeToo, au séisme MeToo dont on a parlé cette semaine, on a l'impression que prendre la parole dans l'espace public, c'est déjà en quelque sorte se soigner.
Ah ben ça doit sans doute y contribuer, mais ça peut aussi enfermer. C'est-à-dire que vous avez des gens qui, à force de prendre la parole dans l'espace public sur une cause, deviennent aliénés et prisonniers de cette cause.
Oui, François Cironi disait à propos des victimes de crimes de masse, cette observation que je trouve très intéressante, elle dit, mais il y a des victimes qui risquent de se survictimiser ou de s'enfermer dans la condition de victime à force d'être exposées, à force d'être, on pourrait dire, passez-moi l'expression, exploitées par la mise en scène de leur souffrance.
Mais bien sûr. Mais comme vous avez aussi des tas de victimes qui ne vont pas être entendues et qui vont être survictimisées par le fait de ne pas avoir été entendues. Je ne crois pas qu'on puisse porter un jugement sur les dérives qu'il peut y avoir de temps en temps sur un phénomène. Bien sûr qu'il y a des avantages et des inconvénients. Et il faut pouvoir dénoncer les inconvénients. Mais il faut aussi pouvoir, je crois, penser le phénomène dans son ensemble. Et surtout d'essayer de saisir qu'est-ce qu'il nous dit de l'état actuel de notre société, des rapports de force dans notre société, et ce qui nous dit de notre capacité extraordinaire à oublier une grande partie des populations. Ceux qui ne rentrent pas dans ce langage-là, ils sont totalement invisibles.
Est-ce qu'il ne nous dit pas aussi, Richard Reichmann, Ricoeur disait, le mal, c'est ce contre quoi on lutte quand on ne peut pas l'expliquer. Est-ce que cela ne nous dit pas aussi, et je reviens au point de départ de la discussion, la difficulté très contemporaine, très moderne, de reparler du mal, du problème, ce qu'on appelait autrefois le problème du mal politique, c'est-à-dire, et vous parliez du djihadisme, je suis frappé de ce que la victimité et tout ce qui est fait autour de la victime que je soutiens, c'est pas la question. Ce n'est qu'une manière très particulière d'aborder quand même le fond, qui est la question du mal politique, d'un mal quasi métaphysique qui est lié à la condition humaine et au crime de masse.
Oui, on peut dire ça, Antoine Garapon, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand même, dans la dénonciation des crimes, on a fait d'énormes progrès. Nous sommes le siècle où il y a eu beaucoup de génocides,
tout à fait.
C'est quand même le siècle où on les tolère le moins. Alors ça ne les empêche pas.
Tout à fait, non, mais ça je vous suis absolument...
Donc il y a une mobilisation derrière cela, qui est une mobilisation...
Qui est positive.
Qui est positive, mais qui n'a pas beaucoup d'effets. Si c'est effectivement, on mesure les choses aux effets qu'elles produisent, c'est pas suffisant. Mais c'est quand même extrêmement important. Même dans MeToo, il y a des dérives. Mais on n'analyse pas un phénomène exclusivement par les dérives. On pourrait dire d'une certaine façon que dans MeToo, il se passe quelque chose d'assez singulier. C'est qu'en 68, les femmes ont eu le droit, enfin, de dire oui à la sexualité. Il faudra attendre 2018 pour qu'elles aient le droit de dire non à qui elles ne veulent pas. Ce qui est quand même quelque chose. Pendant tout un tas d'années, du fait qu'elles avaient enfin le droit à la sexualité, elles n'avaient pas le droit de la refuser à qui elles voulaient, ce qui n'est pas possible. Donc il y a quelque chose là qui... une puissance de ces mouvements qu'il faut leur reconnaître, avec les dérives, l'injustice, la dénonciation publique, tout ce que vous voulez. Mais derrière, il y a des aménagements de notre société qui montrent les espaces contemporains de la subversion, qui ne sont pas les mêmes.
Et la conflictualité.
Et la conflictualité, mais elle est essentielle, cette conflictualité.
Alors, Richard Reichmann, vous avez aussi abordé, et je trouve cette réflexion très intéressante, parce que je crois qu'elle parle beaucoup à la justice, et vous dites, la réparation du préjudice, comment réparer un traumatisme, et vous insistez sur cette expression, d'ailleurs, que je trouve très heureuse, vous dites, il y a toujours, la réparation est possible, mais il y a toujours un reste.
Oui.
Il y a toujours un reste.
il y a toujours une perte, donc il y a toujours un reste, et on ne peut pas tout réparer. Et seul chacun peut réparer les choses, et on ne peut pas revenir à l'état antérieur. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas réparer. Il ne faut pas réparer parce que dire qu'il ne faudrait pas réparer, ça serait ne pas tenir compte de la réalité du préjudice. Et justement, tous les débats qu'il peut y avoir parfois sur la question de la réparation, c'est une façon de dépolitiser la demande. C'est pour ça que pour ma part, je soutiens pleinement la question de la réparation et pleinement la question de la réparation symbolique. Pour une raison très simple, c'est que lorsque vous avez des drames, j'ai beaucoup travaillé sur la catastrophe de Furiani, et qui sont des drames locaux, et où vous avez des survivants qui portent la mémoire seule de leurs victimes, et qui réclament qu'on arrête de jouer au football le 5 mai en commémoration, qu'on en fasse un peu plus, qu'on en fasse toujours un peu plus. On peut se dire, leur demande, mais est-il légitime? On a déjà réparé, on a donné de l'argent, on les a aidés. Qu'est-ce qu'ils demandent de plus? Mais ils demandent la restauration de l'espace social. La restauration de l'espace social, c'est que l'espace social est compatible. Il est comptable, pardon, de tous les individus. Et donc, quand vous avez un événement hors du commun comme cela, c'est l'espace social qui doit le récupérer. Et c'est en cela qu'il y a réparation. Pas forcément de chaque individu, mais réparation collective.
Est-ce que c'est pas le rôle, précisément, Richard Rechtmann, de la mémoire? De la mémoire collective. Est-ce que la victime d'accidents collectifs, et encore plus la victime du terrorisme, c'est-à-dire d'actes énigmatiques, qui restent énigmatiques, qui ne sont pas aussi clairement identifiables que la guerre, ou que la guerre du Vietnam, ou que la guerre de la Seconde Guerre mondiale, ou que la Shoah, bien sûr, est-ce qu'on n'attend pas de l'espace public qu'il commence à conférer un sens, une partie du sens de ce qui nous est arrivé?
Bien sûr, il doit le faire. Il le fait trop... À mon avis, pas assez souvent. Il devrait le faire encore plus souvent, parce qu'il faut effectivement que ces événements aient un caractère symbolique fort pour qu'ils ne soient pas exclusivement portés par ceux qui l'ont vécu. Parce que quand vous parliez de mémoire, et c'est un terme extrêmement important, la mémoire, c'est quelque chose qui est porté par un groupe et pas simplement par ceux qui l'ont vécu. Sinon, ça s'appelle du souvenir. C'est pas du tout la même chose. La mémoire collective, c'est que vous êtes capable de porter l'histoire qui m'est arrivée, que mon voisin est capable de porter cette histoire-là. C'est ça la mémoire collective, c'est ça qui fait la nation. Si la nation, c'est simplement je porte ma propre histoire, je porte mes traumatismes, je porte mes blessés et on me donne 500 euros et je suis calmé, non. Et ce reste, ce fameux reste, il est social.
Et la mémoire juste et la mémoire partagée par tous, y compris ceux qui n'ont pas été traumatisés.
Surtout par ceux qui n'ont pas été traumatisés. C'est eux qui doivent la porter. C'est ça le vrai contrat social. C'est je suis là... vous savez, dans toutes les sociétés, c'est comme ça que ça se passe. Aujourd'hui, je suis tranquille parce que je sais que si je meurs un jour, c'est pas moi qui vais aller devoir porter ma dépouille au cimetière. Je sais qu'il y a des gens qui vont faire ça. Je sais qu'il y a des institutions. Je sais qu'il y a quelque chose qui porte ma mémoire et c'est ce qui me permet d'être un être humain. Parce que c'est le collectif qui va prendre ça.
Richard Rechtmann, ça veut dire que cette victimité, elle peut aussi fonder ou réactiver un sentiment national.
Mais bien sûr. Bien sûr. C'est à la base du sentiment national. C'est pour ça qu'elle a aussi des aspects très positifs et des aspects très compliqués si elle devient un sentiment national nationaliste. Auquel cas, quand c'est un langage politique, on peut lui faire dire ce que l'on veut. C'est là où ça devient dangereux.
Merci beaucoup Richard Rechtmann.
Merci Antoine Grappin.
Matière à penser, c'était le cinquième volet de cette première semaine sur les victimes avec Richard Rechtmann, Claude Niort, Sandrine Chaperon, Anne-Pascale Desvignes et Antoine Grappin. Dès lundi, vous retrouvez Frédéric Worms assis à ce même siège et à cette même heure.